Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à vous dans votre programme hebdomadaire au cœur de l'islam. Merci de vous aligner sur nos ondes et surtout dans ces moments durs que traverse l'humanité, cette belle humanité qui se déshumanise et devient barbare de plus en plus, ne respectant ni les lois de Dieu, ni celles des hommes, ni la nature d'ailleurs. Dieu fasse que nous soyons parmi cette sullatun min al-awalina wa qalilun min al-akhirin. Salamu alaykum Kamal Shekat.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors le prophète de l'islam, c'est Mohammed alayhi salatu wasalam, disait balighu anni walau aya wa hadithu an bani israila wala haraj. Et en évoquant la fin des temps ou les époques qui s'y rapprocheraient, disait ya'ti 'ala an-nas zamanun la ya'rifuna fihi salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan illa ash-shaykh al-kabira wal 'ajuz al-kabirata wa yaquluna adrakna aba'ana wa hum yaquluna la ilaha illa Allah faqila li hudhayfa ibn al-yamani ma tughni 'anhum la ilaha illa Allah faqila tunjihum.
Écoutez,
nous ne sommes pas encore à cette époque, Kamal Shekat.
Alhamdoulilah, oui.
Tout le monde, dans toutes les familles, pratiquement tous les membres de la famille font la prière.
Oui.
Donc nous sommes de bons adorateurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah.
Nous faisons partie des adorateurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que nous sommes de bons adorateurs? Là est la question.
Junayd al-Baghdadi, rahimahullah, disait que la sincérité est une chose que ne connaît que Dieu subhanahu wa ta'ala. Même les anges ne peuvent pas savoir si les cœurs sont sincères ou pas.
C'est clair, mais une bonne sincérité ne conduirait-elle pas vers une bonne mise en pratique?
Alléluia.
Des préceptes,
certainement.
C'est l'imal. Wa ma saddaqahu l'amal. La foi véritable, c'est ce qui se traduit par des actes. Donc on ne peut pas dissocier l'acte du travail même du cœur.
Kamal Shekat, nous avons choisi de continuer donc de lire et d'expliquer le Matn al-Akhdari fil Ibadat ou le Mukhtasar al-Akhdari, un livre référence en la matière.
Oui, absolument. Nous sommes dans l'introduction, hein.
Et une introduction
qui indique que la prière finalement c'est un tout, c'est une charte. Où vous la preniez dans sa globalité ou vous la délaissez, tout simplement. Je ne veux pas dire par là que les gens, si vous n'êtes pas parfait, ne pratiquez pas la prière. Non.
Surtout pas.
Pratiquer la prière, ça ne peut que vous aider à vous améliorer, à vous réformer. Mais il faut prendre conscience du fait que prier n'est pas une fin en soi. Prier peut vous permettre de rester sur le droit chemin, sur la bonne trajectoire.
L'auteur nous dit entre autres, wayajibu alayhi, il parle du mukallaf, c'est-à-dire de celui à qui les préceptes, oui, de le responsable qui se voit dans l'obligation de vouer un culte à Dieu. Wayajibu alayhi hifdhu lisanihi min al-fahsha'i wal-kalam al-qabih wa ayman al-talaq wa intihar al-muslim wa ihanatihi wa sabbihi wa takhwifihi min ghayri haqqin shar'i. Le fidèle doit surveiller son langage en ne prononçant ni paroles obscènes, ni blâmables, ni méchantes. Il ne doit pas utiliser dans ses propos la formule du serment de répudiation. Il ne doit pas éconduire durement un musulman, ni l'humilier, l'insulter ou l'effrayer sans raison juridiquement valable, c'est-à-dire sans raison licite. Alors nous sommes pratiquement dans un principe soufi. Pour beaucoup, le fait de surveiller hifdul lisan, c'est-à-dire assainir ses propos, surveiller sa langue et son langage, vous plonge dans l'éducation spirituelle. Mais là, lui, il va beaucoup plus dans ce qui relève du domaine du licite, c'est-à-dire ne pas prononcer de verbiage, d'obscénité, dire des propos blessants, méchants ou blâmables. Et il ajoute à cela « wa ayman al-talaq ». Donc il ne doit pas mêler à tout ce qui est mauvais en termes de langage la formule de répudiation, talaq. Et là, on peut se poser la question. Bon, à la limite, on peut dire à quelqu'un, faut surveiller ton langage. Mais en quoi le fait de prononcer une formule de répudiation trouverait-elle sa place dans cette nomenclature?
Les conséquences de
cette... Parce que vous vous laissez aller à certaines choses que vous ne jugez pas grave, peut vous conduire à aller vers ce qui est grave et vers ce qui pourrait être lourd de conséquences. Nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui nous parle d'Iblis, qui dit son trône se trouve dans le fond des océans, et des démons viennent au quotidien, ses suppôts viennent lui faire part de ce qu'ils ont pu faire en termes de tentations, etc. Et l'un d'eux lui dira, par Dieu, je n'ai pas laissé un tel jusqu'à ce qu'il ait renié Dieu. Ah, il lui dit, c'est bien. Un autre lui dit, et moi, je n'ai pas laissé un tel jusqu'à ce qu'il ait répudié sa femme. Il lui dit, toi, rapproche-toi de moi.
Ah bon?
Vous voyez, bien sûr, parce que...
Ça compte plus pour Satan que le fait de désavouer Dieu, non?
Oui, ce que nous voyons dans nos rues, tous ces gens-là qui blasphèment, sab al-jalala, qui est une caractéristique purement algérienne, malheureusement. Quand vous faites cela, vous n'attirez le courroux de Dieu que sur vous-même. Alors que quand vous prononcez cette formule de répudiation, et supposons que vous soyez à la fin de votre procédure, on va dire, c'est la troisième fois que vous le faites, yusbihu at-talaq ghayra raj'i, donc c'est un divorce définitif. Vous imaginez les conséquences que cela pourrait avoir
sur la famille, sur la société,
dans sa globalité. Donc, surveiller sa langue, on surveille sa langue dans l'infiniment petit, c'est-à-dire même dans des propos qui pourraient paraître insignifiants, et dans ce qui est grave. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il termine en disant « wantihar il muslim », il faut éviter de conduire durement un musulman, de l'humilier, de l'insulter ou de l'effrayer sans raison licite. Et malheureusement, avec cette tendance wahhabite qui sévit depuis bientôt au moins 4, bon, ça fait plus longtemps, mais elle a pris l'ampleur qu'on lui connaît actuellement depuis pratiquement 30 ans. Humilier les musulmans, les minimiser, jeter l'anathème sur eux est devenu pratiquement une marque de fabrique. Chez les mini-cerveaux, mini-khamis. Nous sommes en train de subir de plein fouet les effets de cette manière d'aborder l'islam dans la tragédie que nous sommes en train de vivre. Un moment où les gens devraient s'unir, ces gens-là appellent à la désunion et en font leur leitmotiv. C'est un étendard qu'ils brandissent au nom de la sunna, au nom de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ces imams, tels que cités par le prophète alayhi salatu wasalam, qui se tiennent aux portes de l'enfer, Kamal Shakat, on les a vus et on les a entendus au démarrage du déluge d'Al-Aqsa.
Oui.
Mais avec cette guerre entre l'Iran et l'entité sioniste, ils se taisent. Pourquoi Kamal Shakat?
Vous savez, les choses ont atteint un degré d'évidence qui rend difficile un discours plaidant pour cette doctrine. cette doctrine qui va dans le sens d'un islam talmudisé ou judaïsé. Ça devient de plus en plus difficile. Mais ils le font, hein, beaucoup d'entre eux le font toujours. Ils trouvent toujours matière à se ranger du côté de l'injuste.
Kamashakat, en expliquant donc cette dernière partie inhérente au repentir, vous disiez que c'est affaire de soufis et de spirituels. Certains, en vous entendant citer ce passage de l'Akhdari, pourraient penser que donc ça ne devrait concerner que cette catégorie de gens aboutis ou sur la voie de Dieu, alors que ça concerne tout le monde. Hein. Le prophète alayhi salatu wasalam exhortait Mouad, c'est lui-même qui lui disait...
Après avoir énoncé les principes de l'islam, après avoir dit que la prière c'était la colonne vertébrale de la religion, etc., il va citer les prières autant, nous avons cité le hadith, autant les prières obligatoires que surérogatoires. Il reviendra sur la prière 3 fois si je ne m'abuse. Oui. Et puis à la fin, il lui dit « Milakou delika kulleh ». Finalement, tout se résume à une chose ou en une chose. « Préserve ta langue des verbiages de tes... » Il lui dit bah, « Mais attends, messager de Dieu, nous allons répondre devant Dieu de ce que nous disons. Que ta mère te perde. Tekilat ka umuk. Wa li yakubbu an-nasa ala wujuhihim fi jahannam illa hasa'idu al-sinatihim. C'est la moisson des langues qui va plonger beaucoup de gens dans le feu de la géhenne.
Ça, c'était la question de Mouad, alors que d'autres ont posé la question au prophète alayhi salatu wasalam sur leurs pensées. Est-ce qu'ils étaient comptables de ce qu'ils cachaient dans leur poitrine?
Oui. Heureusement que non.
Heureusement que non, oui. Une réponse qui a été apportée dans la
sourate Al-Baqarah.
Les derniers versets.
D'ailleurs, quand les versets ont été révélés, la qalu shaqqa 'ala al-mu'minina dhalik. Ensuite, une autre partie a été révélée où il est dit que Dieu ne tient pas rigueur aux musulmans ou aux croyants de ce qui se trame dans leur poitrine. L'auteur va poursuivre et dit « وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْضُ بَصَرِهِ مِنَ النَّضَرِ إِلَى الْحَرَامِ » Là, nous sommes dans ce que les spécialistes en éducation spirituelle appellent « حِفْضُ الْجَوَارِحِ » c'est-à-dire l'essence généralement, l'ouïe, la parole, la vue, ce que pourrait faire la main, etc. « وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْضُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَضْرَةٍ تُؤْدِيهِ » Donc il ne doit pas tourner ses regards vers ce qui lui est interdit, il ne lui est pas permis de jeter un regard blessant sur un musulman, sauf si c'est un débauché, il convient alors de s'en éloigner. وَلَا يَحِلُّ لَهُ يَنْضُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَضْرَةٍ تُؤْدِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ هَجْرُ الْمُبْتَدِعُ بِيَنْ هَجْرُ الْفَاسِقُ c'est-à-dire la mise en quarantaine de quelqu'un qui fait une innovation ou de quelqu'un qui est dévoyé. Alors, le courant justement wahhabite en a fait sa marque de fabrique en quelque sorte. Et l'on a vu ici en Algérie des gens qui étaient dans le banditisme, qui étaient dans une vie de débauche. Du jour au lendemain, ils ont des poils qui poussent au menton, et ils se mettent à porter des qamis, et puis ça devient des savants. Et ces gens-là ne disent plus, par exemple, même si vous leur dites salam, ils vous répondent pas au prétexte que vous êtes une innovatrice ou un innovateur. Et ce que ces gens-là ont oublié, c'est que eux et leurs pseudo-savants se basent sur l'affaire de Ka'b ibn Malik, qui a, par laxisme, n'a pas assisté à ce qu'on appelle Ghazwat Tabouk. Et il a donc été mis en quarantaine quand le messager de Dieu, alayhi salam, est revenu. Il n'a pas fait le jeu des hypocrites qui sont allés jurer par tous les noms de Dieu que voilà, nous avons été empêchés, nous avons eu cela, ceci, etc. Non, lui, il est allé, il a dit, moi, je ne suis pas venu avec toi, je ne suis pas sorti par laxisme, tout simplement.
Il a dit au prophète que Dieu allait l'informer, justement, de la vérité.
Oui, de toute manière, De toute manière, je ne comptais même pas te mentir parce que je sais que Dieu informait le messager de Dieu de ce que faisaient les hypocrites. Mais l'une des sagesses...
Mais les hypocrites se sont bien tirés, Kamashakat.
Oui, parce que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui apprenait durant son apostolat à toute la nation comment se comportaient les uns avec les autres, il était dans l'obligation de les juger par leur paraître. Il ne pouvait pas dire, voilà, toi tu mens, moi je suis appuyé par la prophétie, par l'inspiration divine et tu es en train de me mentir. Non, il devait former ceux qui allaient avoir ou détenir le pouvoir avec lui à la manière dont il devait se comporter avec les musulmans, les non-musulmans et les hypocrites.
Respecter tout le monde.
Bien sûr, c'est-à-dire on se limite au paraître, tout simplement. Nous ne sommes pas juges de ce qui se trame dans les poitrines. Et donc, Ka'b ibn Malik a été mis en quarantaine, lui et deux autres compagnons, pendant 50 jours ouais. et 50 nuits.
Il a même été séparé de son épouse.
De son épouse, oui. Il n'y a qu'un seul, l'un des trois concernés était assez âgé et sa femme a demandé au messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, de rester avec lui pour prendre soin de lui. Il ne pouvait pas rester seul. Et il lui a dit, oui, bon, tu restes avec lui, mais tu te sépares de lui dans la couche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait entre vous des relations intimes, comme c'est le cas entre conjoints. Mais vous savez, les savants de l'islam, quand ils étudient cette anecdote, cette petite histoire, ils vous diront, oui, mais cette mise en quarantaine, elle était peut-être valable dans la société médinoise, celle des compagnons du prophète, parce que c'était une société qui était hautement, on va dire, aboutie sur le plan spirituel. Ça ne peut pas prévaloir dans d'autres sociétés ou dans d'autres modèles, parce que ceux qui sont venus après cette génération de musulmans n'étaient pas vraiment à la hauteur des exigences de la religion. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, il n'y a pas lieu de pratiquer la mise en quarantaine parce qu'elle ne sert absolument à rien.
Mais vous dites que les wahhabites l'ont pratiqué.
Oui, ils l'ont pratiqué parce que nous sommes dans une préparation ou dans la naissance d'un islam hybride qui veut disloquer les sociétés musulmanes. Et rien de tel que de créer ou de faire émerger dans ces sociétés musulmanes une catégorie de gens qui ont un passif on ne peut plus noir, pour ne dire que cela, et qui vont, eux, semer justement la discorde au sein de la société avec ces principes-là.
Mais certains le comprendraient comme du parfait ou du pur salafisme, hein, copier le prophète alayhi salam dans tout ce qu'il a fait il y a bientôt 15 siècles.
Oui, mais
est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique?
Oui, mais attendez.
Aujourd'hui, en 2025.
Non, il est toujours logique et normal de suivre le prophète dans ce qu'il a pu faire.
Pas
ce
qui est anormal.
Bien sûr, pas pour toute chose. Bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit. Antum adra, ou bien a'lamu bi shu'uni dunyakum. Vous êtes à même de savoir ce qui est le plus approprié pour vos époques.
Oui.
Mais quand on parle de Hajar al-Mubtadi', là, premièrement, dans la majorité des cas, ce que ces gens-là qualifient de bid'a, d'innovation, ne l'est pas. D'un autre côté, ils sont aux antipodes de ce que faisaient et de ce que pratiquaient les premiers musulmans, alors que c'est eux qui ont pris l'islam de cette première école que nous appelons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que sous le califat de Omar ibn Khattab et avant lui d'Abu Bakr ibn Siddiq, on interdisait aux compagnons du messager de Dieu alayhi wa sallam de quitter Médine. Pourquoi? Parce que partout où ils allaient, ça créait le chaos. Ces gens-là étaient d'une honorabilité et d'une moralité tellement relevées que ça leur posait problème que de vivre avec des gens et que de voir la manière dont les gens opéraient et d'accepter tout. Alors que dire de nos époques, qui sont aux antipodes pratiquement de ce qui est souhaité religieusement parlant? Donc l'islam, c'est une religion qui normalement devrait plonger chacun d'entre nous dans l'optimisme. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, nous sommes là pour servir de modèle, si l'on peut servir de modèle, et d'appeler les gens au bien. La fonction primaire de chaque prophète ou messager que Dieu a envoyé, c'était d'aider les gens à aller vers le chemin du salut, et non d'aller vers la damnation comme le font ces gens-là.
Justement, oui. Alors il dit dans son Mukhtasar, éviter de rabaisser un autre musulman, d'être hautain avec lui.
Oui.
Certains oulémas le font aujourd'hui, hein, voir comment
ils traitent les gens.
Oui, dans leur mosquée.
Oui. Malheureusement, c'est ça. Ben, enfin, je suis tenté de dire, il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Il y a des gens qui sont à la hauteur de la tâche qui leur a été dévolue. Il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Puis ils ont cette façon de crier sur les fidèles.
Oui. Écoutez, là, justement, alors, en parlant de tradition, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des imams et de leur dire, voilà, pourquoi tu fais ton oraison en criant ainsi?
Oui.
Il vous dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه مندر جيش. Le messager de Dieu, عليه الصلاة والسلام, quand il faisait ses oraisons, il criait comme s'il était en phase de chauffer à blanc des guerriers juste avant une bataille. Mais attendez, le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait ça que là où il y avait lieu de le faire. Nous n'avons rien qui nous dise que lors de ses oraisons, il criait comme ça à tue-tête comme vous le faites. Il criait à se rompre les cordes vocales. Mais là, nous sommes dans un problème qui relève beaucoup plus de la psychologie même ou des tares psychologiques de ces imams, de ces orateurs. Moi, quand je vois quelqu'un sur une chaire en train de crier, de vociférer comme ça, ça me dit, là, tu as affaire à un complexe, à quelqu'un qui a des complexes, mais vraiment psychologiques, qui devrait l'emmener à faire une analyse, carrément. Parce que, généralement, les gens doués de savoir, les gens qui ont confiance en eux, ne crient pas comme ça. Il paraît qu'une fois, l'imam Shafi'i est entré dans la mosquée où il enseignait. Il y avait deux hommes en train de se disputer au sujet d'un point religieux et l'un d'eux s'est tourné vers lui et dit, ah, tu es bien à point nommé imam, comme ça au moins. Tu nous départageras. Et le monsieur, il criait, il lui a dit, tu as tort. Et ton vis-à-vis a raison. Il dit, mais comment peux-tu dire cela alors que tu ne m'as même pas entendu? Il a dit, tu cries tellement fort que ça suggère que tu manques d'arguments. Mmh. Quand on a les arguments, on ne crie pas. Ça. Je crois que nous l'avons déjà cité.
La raison ne crie pas, il y a quelqu'un qui l'avait dit.
L'imam Abu Hanifa est entré à la maison, son fils est arrivé à la maison en pleurant. Il avait été bastonné par son enseignant, son instituteur coranique. Et là, Abu Hanifa, il prend un bout de papier, il écrit « Ar-Rahmanu allama al-Qur'an ». C'est pas « Al-Hakim ou allama al-Qur'an », le sage. C'est « Ar-Rahman », le miséricordieux, a enseigné ou appris le Coran. Ça veut dire que...
Ar-Rahman,
oui, vous voyez, ça marche comme ça. Pas autrement.
C'est vrai, Kamal Chakat, en regardant par exemple des conférences ou des oraisons du vendredi. Alors les jeunes cheikhs, les jeunes muftis, on les craint parce qu'ils crient, il y a même de la violence dans leur façon d'énoncer.
Oui.
Alors que les vieux cheikhs, sans citer de nom, hein, par exemple celui qui me vient à l'esprit, c'est Cheikh Ramadan Bouti, Rabbi Yarhamou. Il parle doucement, serein, ils ont une petite voix, mais ils ont une façon de convaincre terrible. C'est peut-être l'expérience et c'est l'âge qui leur confère cet état, non?
Non, même quand ils étaient nettement plus jeunes, ils étaient comme ça.
On s'en rappelle lorsqu'il était en Algérie dans les années 70.
Oui, vous prenez lui, Razali, Cheikh Razali, etc. Vous prenez d'autres personnes qui comptent parmi ou dans cette classe d'érudits. Il n'y a pas que le manque d'expérience, parce que certains sont morts assez âgés et c'était des gens qui criaient comme ça sur leur chair. Rien qu'en les écoutant, l'éloquence, la rhétorique, la qualité du langage, de l'arabe que produisaient ces gens-là, vous donne une idée par rapport à ceux qui crient comme ça à tue-tête. C'est des gens qui n'ont pas la science qu'ont ceux qui parlent doucement et avec sagesse.
Ça nous rappelle Kamal Chakat, dans la sirah de Abu Madian Shuaib Tilimsani al-Bijai, on racontait que lorsqu'il avait traversé donc le continent européen vers l'Afrique, il fréquentait les grands cheikhs.
Oui.
Mais il n'arrivait à percevoir aucune science, aucune connaissance. Puis une fois, il a écouté un cheikh qui n'était pas très connu.
Quand il est arrivé au Maroc, à Fès.
Et c'est là-bas où son cœur s'était ouvert.
Oui.
Des années après, finalement, il disait que ce cheikh parlait au cœur.
Oui.
Il avait le langage spirituel. C'était ça qui lui avait fait ouvrir le cœur.
Oui.
Alors que les autres avaient une toute autre méthode.
Absolument. Par moment, c'est au discours ou à leur discours que se distinguent les grands savants. Vous prenez quelqu'un comme Ibn Hazm al-Andalusi. Vous savez, c'est un esprit aiguisé, c'est un esprit brillant, surtout dans sa rhétorique face à ses vis-à-vis. Vous savez, le monsieur, il prenait vos propres arguments et il les retournait contre vous. Il avait le don de faire cela. C'est un esprit terrible. Mais il avait un langage à l'encontre des grands savants de l'islam qui était à la limite un langage de voyou. Finalement, ce qui l'a quelque peu destitué, ce qui lui a enlevé de l'éclat qu'il méritait d'avoir, de son aura même, c'est son langage avec les autres, la manière dont il leur parlait, dont il s'adressait à eux. Et ma foi, c'est ça, le langage, il va distinguer les gens entre eux, c'est-à-dire c'est un critère de base quant au jugement que l'on va devoir porter sur les gens.
C'est ce qu'on raconte, Kamal Chakat, en parlant des deux frères Al-Ghazali, Mohamed et Ahmed. Le plus connu, l'auteur de Ihya Ulumuddin, c'est Mohamed.
Abu Hamid al-Ghazali.
Oui, Mohamed Abu Hamid al-Ghazali. Oui. Alors que son frère Ahmed, qui n'était
je,
pas...
Je ne savais pas qu'il avait un frère. C'est, si, vous me l'apprenez.
S'il oui. avait un frère, et oui. c'est d'ailleurs... ils étaient sous la tutelle d'un cheikh soufi, les deux, au décès de leur père.
Oui.
Parce qu'on raconte qu'il leur avait laissé une somme modique
oui.
pour l'enseignement, mais que lorsqu'elles se sont taries, le cheikh voisin donc du papa a été oui. obligé de les lâcher. Pour revenir à son jeune frère, on dit qu'il avait une façon d'inculquer le savoir terrible. Alors que Abu Hamid al-Ghazali, l'auteur de Ihya Ulumuddin, était oui. toujours hautain et se croyait Moussa face à Al-Khidr.
Oui. Je ne sais pas. En tout cas, écoutez, je sais de, entre autres passages concernant sa biographie, qu'une fois, il était sur le point de se faire voler tous ses cahiers, tous ses registres.
Ouais.
Et donc, il va s'adresser à ce brigand de grand chemin qui était sur le point de lui voler ses registres en le suppliant de les lui rendre, en disant « Je suis un érudit et tout mon savoir est consigné dans ses... » Il lui dit « Attends, tu n'es pas un érudit. Le savoir d'un érudit réside dans sa poitrine, pas ouais. dans des registres. » Puis nous l'avons aussi dans une autre anecdote. Une femme le voit transportant ses lourds livres sur le dos de deux chameaux, normalement. Elle lui dit, mais qu'est-ce donc cela? Il dit, écoute, vieille dame, moi, dans ces registres, dans ces livres, j'ai consigné plus de 1000 preuves de l'existence de Dieu. Elle lui dit, mais attends, tu n'as écrit cela que parce qu'il subsiste plus de 1000 doutes dans ton cœur de l'existence de ce Dieu. N'as-tu pas vu, quand on voit les traces sur le sable, ça signifie que qu'un animal ou quelqu'un est passé par là. Quand on voit une crotte d'animal, ceci ou d'un chameau, ceci est la preuve de l'existence du chameau. Et il en est de même pour tout ce qui nous entoure. Ça a été fait par une intelligence suprême, par un architecte. Tout indique qu'il y a un créateur derrière tout cela. Donc vous savez, aussi hautain que vous puissiez l'être, Dieu vous mettra toujours sur votre chemin. S'il vous veut du bien, attention, s'il vous veut du bien, il vous mettra toujours quelqu'un qui vous rappellera à l'ordre par des paroles très très simples.
Une anecdote appelle une autre, Kamal Shekat. C'est ce qui s'est passé avec Jalaluddin Rumi, le Balkhi, et son maître spirituel Shamsuddin Tabriz.
Oui.
Shamsuddin Tabriz qui lui avait jeté tous ses ouvrages, Ummahat al-Kutub, il les avait jetés dans le fleuve, et l'autre qui criaillait que c'était son véritable trésor et tout, il lui disait, le véritable trésor c'est ce que tu possèdes dans ton cœur. C'est l'ilm al-laduni.
Oui.
Ce qui est mentionné dans les livres et
première
appelé
lecture,
à partir.
Oui, bien ouais. sûr, absolument. Normalement, pour qui suit un bon cheminement sur la voie spirituelle.
En parlant des jawarih, hifd al-jawarih, vous n'avez cité que deux.
Oui.
Donc l'œil et la langue.
Et la langue.
Les autres jawarih, quelle est leur implication dans cette affaire du repentir?
Oui, là nous sommes dans ce qui pourrait...
La main par exemple?
Oui, bien sûr, mais il le dit par la suite. Oui. Yajibu alayhi hifd al-jami'i jawarihih.
Qui sont?
Et donc, à la fin, il dit, lui, il faut de toutes ses forces éviter à ses membres toute action blâmable. Il cite notamment la langue et la vue.
Oui.
Parce que vous êtes dans des sens qui vont empiéter sur l'intimité des autres. Mais ceci sous-entend, quand il dit Jami'u Jawarih, tous ses membres,
qui sont-ils, Kamal Shekat?
Alors, vous avez la parole, la vue, l'ouïe et ce que pourraient justement faire vos mains. Généralement, on parle de ça. Mais il y a bien entendu...
Là, on en a quatre.
Oui, là, on en a quatre. Généralement, les grands savants nous parlent de sept jawarih.
L'ouïe, par exemple, Kamal Shekat?
L'ouïe, préserver son ouïe de ce qui est interdit ou blâmable, c'est... entre autres, de ne pas espionner les gens, de ne pas aussi se laisser aller à l'écoute de ce que colportent certaines personnes. Et là, nous sommes plein pied dans ce défaut, avec la manière dont nous adorons.
Les grands médias jouent ce rôle, Kamal
Shekat. Oui, non, mais la manière dont nous, adorateurs des smartphones, vivant tout au long de la journée, toujours à l'affût de ce qui se dit, de ce qui s'écrit par des néophytes, par des ignares dans certaines
Les médias situations. De grand chemin, Kamal Shekat, les médias mainstream, si vous voyez ce qu'ils colportent, leurs mensonges à longueur de journée.
Oui, c'est ça,
c'est ça qui est devenu l'exercice journalistique.
Dans le Coran, le problème ne réside pas uniquement dans le fait de faire dans le fake news, le problème ne réside pas essentiellement dans le fait de devenir un propagateur de fake news, de fausses informations. Le problème est beaucoup plus important quand vous avez des millions de personnes qui suivent ces fausses informations et qui les relaient à leur tour. Oui. Il est là le problème. Donc
la presse people, par exemple, Kamal Shekat, ce soit des émissions radio-télévision ou même des médias print.
Absolument.
Les gens diffusent.
Maintenant, nous sommes entrés dans l'une des...
Est-ce que nous comportons un wizr ou un ithm, Kamal Shekat?
Bien entendu, si nous sommes partie prenante.
Mais nous y sommes pour rien.
Non. Vous savez, le jour du jugement dernier, chacun d'entre nous répondra de ses faits et gestes seul devant Dieu. D'ailleurs, ça me donne envie de rire quand j'entends ces ignares parler de l'Firqa Najia, le groupe qui connaîtra le salut. Le jour du jugement dernier, nous ne nous retrouverons pas devant Dieu en tant que groupe. Voilà, maintenant, là, Dieu, c'est tel groupe qui passe devant toi. Vous savez, quand on étudie l'extrémisme violent, quand on étudie la psychologie des gens qui sont embrigadés par des groupes terroristes, dits terroristes, même si le mot terrorisme, il est plus que galvaudé, il n'a pas de sens pratiquement. Vous savez que il y a dans certains cas, nous avons vu des gens qui ont perpétré des massacres au nom de l'islam, et quand vous discutez avec eux, le type, il est là, il vous dit « Ah non, moi je n'ai rien fait ». Il a agi dans l'anonymat. Pourquoi lui? C'est pas en son nom qu'il a fait ça. Il l'a fait au nom du groupe. C'est pas lui qui était en tort. C'est le groupe auquel il appartenait. Ah non, moi j'ai... Mais attends, le jour du jugement dernier, c'est ce bébé que tu as mis dans un four, cette femme que tu as violée, c'est devant Dieu que tu devras lui faire face. Et tu le feras seul. Là, le jour du jugement dernier, ça marchera comme ça. Alors, ça n'est pas notre faute. Nous sommes dans un modèle de société qui nous a mis plongés dans cette logique. Non.
La question a été posée, Kamal Shekat, ou évoquée par des spécialistes, ou même par des musulmans lambda.
Oui.
Qu'en sera-t-il de ces individus, ces soldats d'une armée, d'un pays qui a normalisé avec l'entité sioniste?
J'ai tout simplement pas envie d'être à leur place le jour du jugement dernier. Là, ça me renvoie à ce dialogue qu'il y a eu entre Saïd ibn Jubayr et même, je pense, l'imam Ahmed ibn Hanbal et un soldat. Il lui a dit, sommes-nous considérés comme des aides ou des auxiliaires du mal en faisant ça? Il a dit, non, toi, tu es un injuste. Ceux qui sont des auxiliaires sont ceux qui t'ont cousu cette tenue que tu portes, par exemple, ceux qui t'apportent à manger, etc.
Parce que ces soldats, ils obtempèrent aux ordres de leur commandant, de leur chef d'État.
Absolument. Et attention, je dis cela, et je le dis en connaissance de cause, à ne pas généraliser sur tous les régimes. Oui. Attention, parce que pour certains, je me souviens, même nos savants, certains les considéraient, et ils le disaient comme ça lors de certains de leurs discours, ulama al-balat, alors qu'avec le temps, on s'est rendu compte que c'était eux qui étaient en tort. On ne peut pas généraliser tout cela, mais il y a des situations qui sont tellement évidentes qu'il n'y a rien à... qu'on ne peut trouver d'excuses pour ceux qui se rangent du mauvais côté. Alors, pour terminer, Il dit, donc en parlant de tous les sens qu'il faut préserver, il arrive à un point plus qu'important. Il dit « وَأَنْ يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لَهُ وَيَرْضَ لَهُ وَيَغْضَبَ لَهُ » Donc, celui qui est animé d'une bonne foi, il lui est recommandé de n'aimer et de ne haïr, de ne consentir et de ne se fâcher qu'en Dieu. Ensuite, il dit « وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ » d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Donc, d'ordonner le bien ou le convenable et d'interdire le blâmable. « لَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ » Ça veut dire que chaque action qu'entreprendrait le musulman, elle ne doit être animée que par le seul désir de plaire à Dieu. Mais là, attention, beaucoup font n'importe quoi et vous disent « Ana flan ubriduhu lillah ». Non, toi tu détestes un tel parce que tu es jaloux de lui. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est comme Abu Lu'lu' al-Majusi, alayhi minallahi ma yistahiq, quand il a poignardé Omar ibn Khattab, il a dit « Par Dieu, je lui ai donné 5 ou 6 coups de couteau ». Je ne sais pas quel était exactement le nombre. Donc, on part du principe qu'il s'agissait de 6 coups de couteau. 5 pour Dieu et un couteau pour moi-même. Et ceux qui ont commenté « Bel kulluha laka la'natullahi alayk » Tu n'as fait ça que pour toi-même. Tu n'as rien fait pour la face de Dieu. Et donc, voilà.
Ceux qui étaient des régents qui se sont permis de tuer, donc, le gendre du prophète, alayhi salam.
Oui, c'est ça. Tout le monde vous dira, non, Bab moi, l'aim. j'ai agi par, pour plaire à Dieu, c'était dans le sentier d'Allah, etc., alors que dans la majorité des cas, c'est faux. Et il termine par, وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ.
Ça, déjà, c'est un l'amr بِالْمَعْرُوفِ, chapitre.
Oui. Et là encore, ça nous renvoie à l'organisation et l'ordre qui devrait régner dans une société. Il n'est pas donné à n'importe qui de procéder à ce que nous appelons l'amr bil ma'ruf, commander le convenable, ou ordonner le convenable, ou nahyu anil munkar, interdire le blâmable. Ça, c'est une tâche qui est, bien sûr, chacun à son niveau a le droit de faire ça. Vous voyez quelqu'un jeter des ordures dans la rue, vous êtes dans le droit de lui faire la remarque.
Ça commence par le plus simple jusqu'au plus...
Oui, c'est ça. Mais il est un certain nombre de choses que nous n'avons pas le droit de faire au nom de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, parce que ça relève des pouvoirs en place. De la mission qui incombe à l'autorité en place. Vous n'allez pas vous faire justice ou vous faire justice vous-même, c'est à l'État de le faire, cette personne morale que nous appelons l'État. Et donc là, c'est des questions qui relèvent de l'ordre public, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres actions qui concernent l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar.
Dans une autre traduction, Kamal Shakat, il est écrit, il est recommandé d'aimer pour Allah et de haïr pour lui, de se réjouir pour Allah et d'être en colère pour lui, oui, ainsi que de commander le bien et d'interdire le mal. Kamal Shakat, pour être à la hauteur de ce dernier énoncé du chapitre de la Tawbah, est-ce qu'il ne faudrait pas être un grand connaisseur des lois de Dieu et de ses préceptes pour pouvoir aimer pour Allah et détester pour Allah?
Écoutez,
qu'est-ce qui motiverait cet amour et cette haine si vous ne connaissiez pas les lois et les limites de Dieu?
Déjà, si vous n'avez pas une connaissance avérée, l'abstention est la voie la plus salutaire pour vous.
Ouais.
Évitez de vous ériger en conscience des peuples pourrait justement vous épargner beaucoup beaucoup de mal et de regrets le jour du jugement dernier. Ça, c'est la première chose. D'un autre côté, est-ce qu'il faut être un érudit pour être à la hauteur de certaines choses? Vous savez, nous avons cet adage que nous ont appris nos grands-mères, عطيه اللي فهم له لقرا. Il y a des choses qui sont un peu plus claires. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au nom de la religion, ou faire n'importe quoi au nom du bon droit. Parce que ça va se retourner contre vous, fatalement. Donc l'idéal, l'absence de discernement, l'absence de d'expérience, normalement devrait inciter chacun d'entre nous à laisser à qui de droit le droit de faire ce que l'on aimerait faire soi-même. Mais en tout cas, il est
un certain nombre... Mais à l'ère des sciences, Kamal Chekat, à l'ère des sciences où tout est accessible,
non,
cet adage
c'est ça, le problème.
N'est plus valable.
Non, le problème c'est que nous sommes à l'ère de la plume, comme dirait un hadith, « Yakthuru al-qalamu wa yaqillu al-ilm ». C'est l'un des signes avant-coureurs de la fin des temps. Et là, vous voyez, vous avez des gens qui sont face à leur smartphone en train d'écrire à longueur de journée, de débiter n'importe quoi au nom d'un prétendu savoir.
Quelle est la dernière fois où ils ont pris un livre entre les mains?
Ah, allez le savoir. L'ont-ils pris ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie? Là aussi, la question se pose. Parce que moi j'en connais qui ne lisent pas, mais qui s'érigent en penseurs.
Justement, Kamal Chekat, pour ne pas se limiter à sa méconnaissance ou à l'absence d'information pour tel ou tel sujet, il faudrait s'adresser aux gens qui sont savants.
Voilà. Normalement.
Mais comment tirer le bon grain de l'ivraie ?
Istafti qalbaka wa law aftaka an-nas wa aftawk. C'est-à-dire que normalement, nous sommes censés mettre en pratique ce qui conforte notre foi. Matma'annat ilayhi qulubuna. Et à partir de là, vous pourriez aller poser une question, pour vous êtes en quête d'une réponse ou bien d'une solution, quelle qu'elle soit, vous allez poser la question à qui de droit, à qui est censé jouir d'un certain degré de connaissance dans ce qu'on appelle les sciences religieuses, et quand bien même cette personne vous donnerait une réponse, il faut partir d'un principe très simple, énoncé par les grands savants de cette nation. Al-futiya ghayru mulzima bi khilaf al-qada, al-qada mulzim. Ça veut dire que quand vous êtes face à un juge et qu'il va donc prononcer une ordonnance, elle est contraignante, vous allez devoir vous y soumettre. Une fatwa, c'est pas la même chose. Quand vous allez poser une question à un érudit, il va vous donner sa réponse. Ensuite, maintenant, normalement, vous êtes censé suivre ce qu'il vous a dit. Mais par moment, si vous êtes envahi par un doute, ou si quelque chose en vous dit « non, ça ne peut pas se passer comme ça », ça va à l'encontre peut-être d'un principe immuable, ça va à l'encontre de votre capacité à vous soumettre à cette contrainte, etc., vous pouvez faire valoir votre pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que vous allez consulter votre propre cœur, ou bien aller consulter une autre personne. Mais en tout cas, en l'absence de connaissances avérées, ne vous avisez jamais de vous ériger en super érudit, en super musulman.
Ça ne peut être qu'une grâce divine, Kamal Chekat. Comment une connaissance ou une fatwa peut-elle avoir un lien avec itma'in al-qalb, Kamal Chekat?
Bien sûr, mais c'est courant normalement. Vous allez vers une personne en qui vous avez confiance. Si c'est vraiment une personne douée de connaissances, elle va adapter sa réponse à vos besoins.
Pour terminer le numéro d'aujourd'hui et pour illustrer vos propos, Kamal Chekat, par exemple, nous avons X personnes qui a bénéficié d'un bien immobilier par héritage. Ça pourrait être un terrain, un immeuble, des ateliers ou des entrepôts. Alors cette personne, l'héritière donc, voudrait fixer un prix plutôt élevé, un prix peut-être même exorbitant, mais on lui conseille de proposer un prix de vente plutôt ma'koul, parce que ce bien mis en vente est un don de Dieu, hiba min Allah. Alors, faut-il être conséquent dans la fixation de la somme demandée, et qu'est-ce qui pourrait décider de cela, Kamal Chekat?
Non, écoutez, c'est normalement dans l'immobilier, vous suivez un cours.
Oui.
Il y a un marché avec un cours, vous le suivez tout simplement. Maintenant,
A posé cette question me disait « Non, je ne suis pas convaincu par la réponse de M. Chekat ».
Oui, il a parfaitement le droit de ne pas être convaincu. Moi, je suis d'avis que dans l'immobilier, vous avez un bien immobilier à vendre. Vous allez essayer d'en tirer le meilleur prix. Maintenant, si les conditions vous le permettent, tant mieux pour vous. Si elles ne vous le permettent pas, tant pis pour vous. Ça marche comme ça. Attention à ne pas confondre un bien immobilier duquel vous puissiez tirer le meilleur profit. Et par exemple, vous êtes dans le commerce et vous vendez des produits stratégiques en faisant de la spéculation, etc. Là, bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce qui est sûr, c'est que les premiers musulmans, ils étaient dans cet esprit qui prenait en considération le fait de ne pas se laisser tenter, de ne pas se laisser aller à l'avidité, etc. C'est-à-dire qu'ils gagnaient en fixant des marges qui étaient quand même...
logiques et légales.
Pas légales, mais ils étaient quand même à même de fixer des marges qui étaient raisonnables, tout simplement. Mais dans certains cas, vous pouvez être en possession d'un bien ou d'une chose qui pourrait... Vous rapportez le meilleur prix, ben pourquoi pas? Vous n'avez pas volé. Et puis, celui qui est venu acheter, il a acheté en connaissance de cause. Même si le produit était cher, il est...
Il y a une valeur intrinsèque du produit en question.
Oui, absolument.
Oui. Et puis, la suite se jouera selon les besoins ou l'intention de tout un chacun.
Il an takuna tijaratan an taradin baynakum.
Très bien.
S'il y a un consentement mutuel, le problème ne se pose plus sur le plan d'ici.
Kamel Chakat, nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui et c'est ainsi que nous clôturons ce numéro qui a été une tentative de votre part d'expliquer l'introduction du Mukhtasar al-Ibadat fil Fiqh al-Maliki l'Imam Abdurrahman Akhdari, un savant de chez nous, de Biskra. Et cette partie d'aujourd'hui concerne les devoirs du Mukallaf, le musulman responsable de ses actes ayant atteint la majorité et doté de raison surtout. Donc les implications et les conséquences de nos actes et de nos paroles pour nous d'abord et parfois même pour toute la communauté et pour tout le groupe. C'était la partie inhérente au repentir. Donc je vous remercie au nom de nos amis auditeurs pour cette interprétation actualisée et dont les exemples et paraboles sont tirés de notre vécu. Et je vous laisse le dernier mot, Kamel Chakat.
Écoutez, je ne peux tout d'abord qu'adresser à Dieu des prières pour nos frères, essentiellement à Gaza et puis dans toute la Palestine, à toute cette communauté de l'islam qui vit des temps très très difficiles. Puisse Dieu faire que nous soyons des vecteurs du bien et des fermoirs ou bien des obstacles pour le mal. C'est tout ce qu'on peut prier autant pour les autres que pour nous-mêmes. Et puisse Dieu, Inch'Allah, nous donner force dans cette adversité que nous sommes en train d'essuyer.
Un mot pour les nôtres, pour les désaides des non-musulmans d'ici?
Le triptyque qui pourrait vraiment être la voie du salut, c'est Dieu, l'islam, l'Algérie. Mais ce qui serait bon pour nous, c'est que pour ce qui est de Dieu et de l'islam, c'est un point commun entre tous les musulmans du monde. Mais quand je dis l'Algérie, ceci veut dire que autant nous aimons le bien pour notre pays, autant nous devrions aimer le bien pour les autres pays aussi. Oui. C'est ça. Vous savez, je ne peux pas concevoir d'un Algérien qu'il prétend aimer l'Algérie s'il n'aime pas le bien pour, par exemple, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Niger. Ça ne peut pas passer. Ça marche comme ça. Donc, c'est un triptyque vraiment qui pourrait nous sauver. Allah, l'islam, thumma al-Jazair. Et quand je dis l'Algérie devrait devenir une ligne rouge pour tous ceux qui pourraient mettre à mal son intégrité, l'unité de son peuple. Et ma foi, nous allons vers des temps difficiles, vraiment des temps même que je qualifierais d'obscurs, où toute fausse manœuvre pourrait vraiment attirer sur vous la suspicion. Donc, évitez de jouer avec ce triptyque.
Vous parlez de qui, Kamel Chakat?
Je parle de tout le monde, mais à mon niveau, moi, je parle de moi-même en tant que citoyen. est-ce que j'ai le droit de mettre à mal ou de mettre en péril cette intégrité de l'Algérie au nom de je ne sais quel principe ou quelle lutte ou...
Et pourquoi des gens voudraient venir mettre à mal cette intégrité, cette unité et cette cohésion nationale, Kamal Chekat?
Écoutez, le plus sage est celui qui choisit le moindre mal.
Oui.
Alors, dans l'état actuel des choses...
La plus simple action, par exemple, Kamal Chekat, la plus banale, qui pourrait contrevenir à cette cohésion?
C'est de faire du colportage, d'essayer de faire de la dissidence au nom de je ne sais quel principe de justice. Ça pourrait même embraser les choses comme un feu de paille. Il faut vraiment prendre garde à ce que nous disons, à ce que nous faisons.
À ce que nous écrivons.
À ce que nous écrivons aussi.
Je vous remercie pour tout ce que vous faites, Kamal Chekat. Il est vrai que le chemin de la responsabilité et de la conscience pourrait être bourdé d'épines et même de plein d'autres choses. Mais agir responsable pour le bien de tout le groupe est aujourd'hui vital. Merci de nous avoir suivis. Si cette émission résonne en vous, partagez-la et faites-nous part des points sur lesquels vous aimeriez que l'on insiste le plus. Faites un tour sur x.com et notre page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Merci d'avoir été là et à vendredi prochain.